Générique désignant ces films de cinéma ou de télévision qui se situent entre le documentaire et la fiction, qui sont aux intersections de ces catégories, qui sont apparemment distinctes. Hein, on dit en général fiction, non-fiction, pour distinguer la fiction de tout le reste, enfin la fiction de tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas récit à l'aide qui avance à l'aide d'acteurs. Donc on désigne d'un côté les films de création, les émissions documentaires, l'invention, l'imagination d'un côté, la réalité de l'autre, le faux d'un côté versus le vrai. La vérité. Donc, on peut à la fois imaginer le docufiction comme un genre particulier, ou alors utiliser le mot docufiction, et c'est ce que je vais faire ici, comme un terme générique qui va désigner tous les films, toutes les émissions qui mélangent la réalité avec la fiction, le documentaire avec la grammaire de du documentaire avec la grammaire de la fiction. Parce qu'en fait, ces trois genres ne devraient pas se rencontrer. On ne devrait pas rencontrer la fiction avec l'histoire et le documentaire avec la fiction et le documentaire, la fiction avec l'histoire. C'est-à-dire, en effet, il existe des dangers lorsque l'histoire pactise avec la fiction. Lorsque l'histoire rencontre la fiction, elle risque de perdre, sinon son âme, au moins les spécificités qu'elle a conquises de haute lutte après des siècles de mise à distance avec ce qui la ramenait au monde de l'imaginaire. L'histoire, en effet, avant de s'imposer en tant que discipline des sciences humaines, a dû lutter contre plusieurs catégories de références. Elle a dû se dégager de l'univers des mythes, d'abord. Elle a dû se dégager de la religion. Elle a dû se dégager plus récemment de la politique, même si elle est encore trop liée, très liée, et ça lui est reproché au récit, au style, à la littérature, au narratif, bref, à la fiction. Donc l'histoire... Pour devenir ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire une discipline des sciences humaines, une discipline scientifique, on l'enseigne à l'université et c'est une discipline du CNRS, elle a dû se dégager de la fiction, elle a dû se dégager du récit, et pourtant, ici, en ce qui concerne la télévision et le cinéma, elle va se retrouver. Parce que parler de fiction historique, c'est souvent dire que le mensonge peut être vrai et la vérité fausse, ce qui est étrange. Parce que le terme de fiction possède deux sens, dont l'un, mensonge, dissimulation, est contradictoire avec la discipline historique. Christophe Pomian l'affirme clairement, point d'histoire sans la conscience d'une frontière entre le royaume de la réalité et celui où c'est la fiction qui exerce la plénitude du pouvoir. De nombreux travaux sur le cinéma ont montré à quel point le cinéma et la télévision ont un rapport ontologique au réel. L'image enregistrée par la caméra est en soi un document d'histoire. Le travail de Marc Ferro, en particulier, a montré que le cinéma pouvait être un agent d'histoire et que, quel que soit son degré de fausseté, de propagande ou de désir de manipulation, le document historique est un document d'histoire. Le document filmé, je veux dire, est un document d'histoire. Il témoigne d'un moment du réel. Toutefois, et c'est la contradiction du cinéma enregistreur de réel, la technique cinématographique, la technique électronique puis numérique, au contraire, ont amélioré les choses, a conquis son audience en développant la fiction. Donc là, le cinéma s'invente. Le cinéma s'invente. En tant que documentaire historique, que document historique, et il se développe en tant que document de fiction, d'invention, d'imaginaire et de rêve. Or, on l'a dit tout à l'heure, la fiction est antinomique de l'histoire, la fiction joue avec le réel, avec le vraisemblable, mais elle ne se pose jamais la question de la vérité. Or, c'est la vérité qui fonde l'histoire par rapport à l'épopée ou à la poésie. Je parlais de la manière dont l'histoire avait essayé de sortir de la gangue du mythe, de la religion, pour arriver à devenir une discipline. Et pour devenir une discipline, elle a dû avoir affaire avec cette question de la vérité. L'histoire s'établit en effet sur la capacité à donner des éléments de vérification à ce qu'elle affirme. C'est ce qui la distingue du récit de fiction. Alors, le mélange de la fiction et de l'histoire n'est pas inédit. Peinture classique, roman, feuilleton historique font si bien partie de notre culture que peu de gens trouvent à redire devant les beaux enfants nés des viols successifs subis par Clio, comme le disait Alexandre Dumas. Peut-on, devant le plaisir traditionnel que l'on ressent devant ce type de production, perdre pour autant tout sens critique ? En effet, l'histoire n'est pas une matière comme les autres. Elle touche à l'identité des groupes. Elle joue un rôle politique de premier plan dans le devenir des peuples et des continents. Tout récemment, les questions de mémoire, qui semblaient dans nos pays apaisées, être cantonnées au domaine universitaire, se sont réveillées avec fracas dans l'espace public. On le sait, les guerres de mémoire se multiplient en France et dans le monde. Or, les images animées n'ont jamais semblé aussi véridiques, dignes de foi. Nous savons que l'amélioration des techniques est loin d'avoir fait disparaître la manipulation des images. Elle a même permis des perfectionnements à ces manipulations, que ce soit dans les images de non-fiction, ce qui est classique, ce qui est moins classique, et de fiction. Alors, peut-on voir un lien entre ces progrès entre guillemets, ces progrès de bidonnage, ces progrès de manipulation, et la multiplication des docufictions ? Ces docufictions qui trouvent leur source dans l'effet de réalité du cinéma. Si, comme nous allons le voir, naissent en même temps, le cinéma s'est créé en s'appuyant sur cet effet de réalité, en travaillant sur cet effet de réalité. Ces productions mélangeant le documentaire et la fiction, qui sont anciennes au cinéma, comme ces productions les plus récentes aussi à la télévision, offrent une vaste production de ce qu'on pourrait appeler des faux. Alors le mot faux est pris dans le sens le moins normatif, c'est-à-dire de quelque chose, entre guillemets, qui n'a de l'apparence de la chose réelle, qui n'a que l'apparence de la chose réelle, sans en avoir les caractéristiques, les qualités essentielles. Ces productions, qui sont à la frontière entre le documentaire et la fiction, sont en effet imitation, contrefaçon de quelque chose, ce quelque chose étant en l'occurrence l'événement historique. Faux documents, faux dialogues, fausses psychologies, faux événements, faux personnages composent les émissions dont nous allons parler ici. Tous ces faux ayant, et c'est ce qui fait l'intérêt de cette question, constamment à la bouche les mots de réalité et de vérité. Les docufictions se situent à l'intersection de 6 éléments. À la fois la forme documentaire, la forme fictionnelle et les informations. Et ces formes, documentaires, fictionnelles, informations, se croisent avec des contenus documentaires, contenus fictionnels, contenus d'actualité. Et ce sont les mélanges qui forment ces genres. Nous ne proposerons pas donc une typologie, mais on va plutôt présenter ces types de programmes mélangeant le documentaire et la fiction selon leurs objectifs, selon leurs intentions. Alors, moi, j'ai relevé 3 types d'objectifs qui distinguent ces types de docufiction. Alors, le premier type de docufiction tourne autour de la volonté de mieux faire connaître le passé. Les premiers docufictions dont nous allons parler ici ont comme objectif de mettre toutes les formes audiovisuelles au service du public le plus large pour faire connaître le passé. On va se servir à la fois de la fiction et du documentaire pour faire connaître, pour faire comprendre. Le deuxième objectif de ces docufictions, c'est de se servir de l'hybridation des formes et de contenus pour mieux dénoncer ce mélange, pour mieux dénoncer ces documentaires ou ces fictions. C'est-à-dire mettre à jour la profonde mystification de certaines pratiques audiovisuelles. Le troisième objectif de ces mélanges, qu'on pourrait dire contre nature, c'est de mettre à jour, de révéler, grâce à de nouvelles images, des situations insolites, des techniques modernes, une réalité ignorée, une authenticité naturellement perdue. Alors, dans cette catégorie des docufictions qui ont comme objectif un objectif de connaissance, il faut bien noter le paradoxe qui existe entre le fait que ces docufictions vont se servir de la fiction, c'est-à-dire de l'invention, de la forme qui est propre à l'invention, pour parler du réel, pour apprendre. La fonction pédagogique va être la fiction va être utilisée dans une fonction pour cette fonction pédagogique, ce qui évidemment est étrange. En effet, le documentaire et la fiction ne s'adressent pas à leur public avec la même promesse. Le documentaire et la fiction proposent des pactes de croyances différents. D'un côté, le documentaire demande à l'émetteur de le suivre, de lui faire confiance, de le croire, parce qu'il emprunte les chemins du savoir et de la connaissance du réel. La fiction, elle, au contraire, ne cache pas qu'elle ne se situe pas du côté du vrai ou du vérifiable. Certes, elle demande une suspension de l'incrédulité, mais l'incrédulité demeure face à la fiction. Le documentaire promet de l'information et de la connaissance, tandis que la fiction assure de l'émotion, éventuellement de la passion. Donc d'un côté, le plaisir de la connaissance qui n'exclut pas l'effort et contraint la distanciation. De l'autre, le plaisir gratuit qui passe souvent par les processus d'identification. La fiction permet comme nulle autre forme de traiter les questions psychologiques, d'aborder les mentalités, les comportements, les relations entre la vie personnelle et la réalité collective. Elle permet surtout de montrer des images, même quand celles-ci n'existent pas. Comme l'explique Dayret Paget, il n'y a parfois « no other way to tell it ». La reconstitution à l'aide de procédés de fiction, d'événements documentaires ayant vraiment eu lieu, s'est très tôt présentée comme une solution pour les premiers reporters d'images désireux de répondre aux demandes du public. Et la première forme mélangeant réalité et fiction est née avec l'invention du cinéma ou presque, et on a appelé ça des actualités reconstituées. Les actualités reconstituées sont concomitantes au début du cinématographe. Ces fausses actualités sont nées très tôt pour plusieurs raisons. Pourquoi réaliser de fausses actualités? Pourquoi se servir de la fiction, c'est-à-dire de la reconstitution des acteurs, pour reconstituer le vrai, le réel, l'événement qui a eu lieu? Alors, bien sûr, les deux raisons principales sont que d'abord, le caméraman n'a pas pu filmer l'événement, soit parce qu'il est arrivé après, parce qu'il n'y a pas eu accès ou parce qu'il a eu des problèmes techniques. Il est même arrivé que la reconstitution s'explique par le désir de certains professionnels de prétendre faussement avoir été présent. Ce professionnel prétend avoir fait quelque chose qu'il n'a pas fait. De Méliès à Patrick Poivre d'Arvor, les exemples abondent de ceux qui manipulent les images pour leur gloire. Alors, la plupart du temps, il s'agit de compenser l'absence d'image. Patrick Poivre d'Arvor, je le citais en clin d'œil, mais il faut citer des émissions comme March of the Time dans les années 30 ou Citizen Kane qui vont se servir de la reconstitution de fausses actualités pour rendre compte de quelque chose qui n'existait pas. Mais les exemples de fausses actualités sont amusantes à raconter et elles sont pléthores. Alors, il faut citer les batailles de la guerre hispano-américaine qui ont été reconstituées en studio en 1898, donc vous voyez, 3 ans après l'invention du cinéma. L'opérateur Albert Smith s'est rendu pourtant à Cuba pour filmer la guerre entre les Espagnols et les Espagnols et les Américains. Mais de retour à New York, ces rushes de la bataille de Juan Hill sont toutes inutilisables. Elles sont illisibles, donc il va falloir reconstituer à l'aide pour les journaux qui attendent, pour les cinémas qui attendent ces rushs. Il va reconstituer la bataille de Juan Hill à l'aide de fumée de cigares, en mettant dans une baignoire un bâton en carton qui coule, en bruitant avec des images d'explosion le film ainsi reconstitué. Et Albert Smith et Stuart Blackton, avec la complicité de la Vitagraph, vont créer un document reconstituant la bataille de Juan Hill, qui va avoir un succès fou et dont personne apparemment ne releva la fausseté. Première fausse actualité de l'histoire du cinéma. On peut citer aussi la reconstitution en studio de l'incendie du bazar de la Charité, qui a fait 121 morts le 4 mai 1897, cette reconstitution d'un événement tragique va émouvoir aux larmes le public. Maintenant, moi qui ai vu la reconstitution, je doute que le public ait été dupe et qu'il s'est probablement rendu compte qu'il s'agissait d'une fausse actualité. En tous les cas, dans ces deux cas, fausse actualité, utiliser le faux pour dire le vrai. Le couronnement du roi Édouard VII est aussi une fausse actualité bien connue. Il a eu lieu en 1902. Il demeure un exemple fameux, la fabrication de fausses archives. Méliès, l'ancien illusionniste, n'ayant pas reçu l'autorisation de filmer les cérémonies de couronnement d'Édouard VII, reconstitue l'événement politique ou mondain le lendemain. Les autorités anglaises acceptent de coopérer à la reconstitution, mais non pas à Westminster. On n'autorise pas Méliès à reconstituer les fausses actualités le couronnement à Westminster, mais en studio. Les acteurs interprètent le roi et la reine, si bien que le roi qui a demandé à voir la reconstitution se reconnaîtra fort bien, je cite. Il aurait dit « Si je n'étais pas sûr du contraire, je croirais que nous nous sommes vus nous-mêmes en personne », aurait-il dit avec un humour tout britannique. Donc, fausses actualités, reconstitution d'un événement, d'un couronnement, on sait à quel point les gens sont friands de ce genre d'actualités. Fausses reconstitutions ou également, quelques mois après la libération de Dreyfus, Méliès, toujours Dreyfusard convaincu, reconstitue en 11 tableaux de l'arrestation de Dreyfus à Dreyfus allant du lycée de Rennes à la prison, les étapes principales de l'affaire. Ces fausses actualités sont reconstituées pour faire connaître, pour que les gens sachent, hein, que ce soit pour des raisons mondaines, ou people, on dirait maintenant, ou pour des raisons politiques, ou de connaissances, comme il s'agit de l'affaire Dreyfus. En tous les cas, on reconstitue des archives, on reconstitue des actualités pour faire connaître au monde l'événement qui nous semble suffisamment important. Alors, deuxième méthode pour faire connaître, l'histoire ou pour faire connaître un événement du passé, eh bien, les docudramas ou dramadoc, comme disent les Américains. De la même manière qu'avec les actualités reconstituées, on va se servir de la fiction pour reconstituer un événement qui a eu lieu et qui n'a pas été, qui n'a pas été filmé. Alors, le terme de docudrama a été utilisé pour désigner donc ces films de fiction reconstitués en des événements réels à travers le destin de personnages ayant existé. Documentary drama, comme par exemple la prise de pouvoir par Louis XIV, ou Holocauste, ou Nuit noire. Alors, je voudrais maintenant, si j'arrive à vous présenter un extrait de la prise de pouvoir par Louis XIV, c'est un film qui a été tourné par la télévision française, un film de Rossellini. Et le film de Rossellini Rossellini essaie de reconstituer, je ne sais pas si ça va marcher, de se reconstituer. Larry, ça marche ?
Non. Cédric.
D'accord. Est-ce que quelqu'un est à Bon, d'accord.
Mac, pas trop long.
Bah oui, c'est ça, c'est Mac. Donc, qu'est-ce qui distingue un film à costume d'un docudrama comme La prise de pouvoir par Louis XIV ?
Non, bah, je ne sais pas faire.
Je crois que c'est... C'est très simple en plus.
Et oui.
Personne ne sait comment on va diffuser une image sur Mac. Hein ? Ah ben oui, il est là. Voilà, il est là, c'est bon ?
Non, ça c'est le film.
Ah, c'est celui-là. Ah,
j'ai pas votre source.
Ça doit être même la part là. Alors là.
Ah, puis c'est simple, hein, mais je sais que... Un quick time.
Non, je ne sais pas faire.
C'est juste sur... Enfin, sur les PC, c'est fonction F5, mais là, je...
Bah, essayez. Combien vous dites ?
Non, ça...
Désolée. Donc, qu'est-ce qui distingue un film à costume comme La prise de pouvoir par Louis XIV qu'on ne va peut-être pas voir, ou comme Holocauste ou comme Nuit noire ? C'est tout un ensemble de métatextes, de textes qui présentent le film essentiellement. C'est la volonté du réalisateur de dépasser justement le film à costume et d'essayer de montrer que grâce à la fiction, grâce à la reconstitution, on va parvenir à dire le vrai, à dire quelque chose d'autre que ce que l'on sait de manière traditionnelle. Alors on parle aussi de cinéma vérité en ce qui concerne le cinéma, on parle d'écriture par l'image, Et en ce qui concerne la télévision, on parle donc de docudrama ou de dramadoc. Alors évidemment, on voit bien qu'on fait référence donc à une, explicitement à une démarche documentée et historique. Donc, des éléments, donc il y a à la fois le métadiscours dans la presse, dans la présentation par le réalisateur, mais il y a aussi le choix de l'auteur. Souvent, les auteurs de dramadoc sont des gens qui sont soit des documentaristes, soit des réalisateurs, c'est le cas de Rossellini, qui a un rapport au réel très particulier, très documentarisant. Hein. Mais il y a aussi des éléments de mise en scène qui font référence, des éléments de mise en scène qui signifient qu'on est dans le réel. Par exemple, personne ne sait faire... Alors voilà. Donc là, c'est le film que je voudrais montrer.
Et où elle...
Il est sur QuickTime.
Et il passe pas.
Non, parce qu'il y a un, il faut lui dire, il faut lui donner la source. Quoi.
Ok, attendez.
Je crois que c'est la préférence, mais je suis plus
voilà,
sûr.
Voilà, allez voir dans les préférences système. Allez voir.
Vous savez, c'est en préférence et après.
Moniteur.
Moniteur, oui, c'est ce que j'ai. Voilà, c'est ça.
Voilà. Il va peut-être un peu.
Il l'a pris.
Voilà.
Et là, comment je fais? Je fais.
Voilà, vous le lancez. Vous pouvez le mettre en plein écran. Présentation, donc adapté à l'écran. Le raccourci, c'est pomme F. C'est simplement ce que je cherche. Ah, excusez-moi.
Oui, pomme F. C'est mon texte. Il ne faut pas me le faire partir.
Ah, d'accord.
Alors attendez, là, on se remet.
Pomme F, ouais. Voilà.
Il est où mon film? Ah, mais ça, je veux pas voir ça.
Non, mais ça, hop.
Alors, comment on fait? Oh là là.
Non, c'est pas grave, c'est qu'on est sur double écran. Vous pouvez aller le chercher. C'est celui-là le film?
Oui, c'est ça.
Voilà. Voilà, vous appuyez.
Voilà. Alors, voilà, ça c'est. Oui, pas parce que j'ai un autre problème. Ça c'est un problème. Alors, vous voyez, ça c'est la prise de pouvoir par Louis XIV. Et ce que vous faites, c'est la manière dont on construisait Louis XIV. Donc on voit la manière très réaliste de montrer que Versailles était situé sur un terrain vague, minable. Voilà, c'est la construction de Versailles dans des conditions donc très réalistes. Alors évidemment, maintenant, avec le temps, ça ne nous paraît pas si réaliste que ça.
J'ai eu des nouvelles de notre ville par un charretier qui est venu de Vincennes avec un charroi de fourrage pour le Louvre.
On voit des gens ordinaires. Hein, c'est une histoire influencée par l'école des Annales.
Quant à notre gendre, on dit qu'ils vont l'envoyer à Bordeaux pour acheter du vin. Au palais, ils ne peuvent plus s'en passer.
Voilà ce que c'est que d'avoir un gendre bien en cours. Le meilleur caviste de Sa Majesté. Toujours en voyage à la suite du roi.
C'est en français, c'était fait, c'était pour la télévision française.
Après tout, c'est un maître comme un autre. En Angleterre, on lui a coupé la tête au roi. Et il n'y a pas eu de tremblement de terre, ni d'éclipse.
Pas tort de dire ça.
Alors, s'il n'y avait pas de roi, il n'y aurait pas de palais. Pour interpréter Louis XIV, il est allé chercher un inconnu, qui était, je crois, charcutier ou quelque chose comme ça. Il l'a cherché.
Qui voit Vincennes chez le Mazarin. Nous, quand on...
Je voulais vous montrer Louis XIV. Donc...
Ah, messieurs, nous vous attendions. Son éminence est au plus mal. Accompagnez-les dans la chambre de son éminence.
Parce que ça avait été très marquant à l'époque, hein, ces années 60. Parce que Louis XIV était donc tel qu'il était probablement en vrai, c'est-à-dire un homme lourd. Pas très beau, très mal à l'aise.
J'aurais voulu, cher confrère, avoir votre opinion.
Eh bien, voyons le malade.
C'est un film qui a été fait avec un
Éminence.
Grand historien.
Voici les deux confrères dont
Philippe Erlanger.
Ils vont vous examiner. Messieurs.
Mazarin parle avec l'accent italien.
Que ressentez-vous?
Votre difficulté à respirer. Je ressens.
j'accélère toujours pour essayer de vous montrer. Alors évidemment, il y a un réalisme de la maladie, des clistères, des peaux, de l'eau et de ce qui des humeurs, des pieds qu'on lave. Une lenteur dans le film. Hein, c'est l'anti-modèle hollywoodien.
Nous saignons les enfants de 3 ans.
Pardon, je cherche toujours l'arrivée de Louis XIV, qui met un certain temps à arriver. Voilà. Donc on est très loin du Roi Soleil. Voilà, voilà Louis XIV. Donc en effet, on est très loin du Roi Soleil et de...
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Les acteurs jouent comme dans du Bresson avec très peu de...
Pris sul cieli et terra, gloria tua, Kyrie eleison.
Christe
eleison.
Christe eleison. Deus nostrum, pris sul cieli sancti, mitum, alvinia regnum tuum, fia jovum terrae, fiat tuum, et cetera, panem sum periam, ambitionia.
Il n'arrivait pas à prendre son texte.
Et nos inducas in tentationem. Oremus, dirigere et sanctificare. Vis et regnas in secula seculorum.
Amen.
Donc le réalisme passe par le temps réel, quoi. C'est-à-dire que... Très peu d'ellipses.
Que se passe-t-il? La reine appelle?
Non, non. Elle fait savoir que le roi a accompli cette nuit le devoir conjugal.
Vous voyez tout cet aspect documentaire. À vous montrer comment le roi était nourri, dans le détail, les plats, enfin voilà. Donc c'est...
Eh bien, quelles sont les nouvelles de son éminence?
Son éminence a exprimé le désir de voir votre majesté après son lever.
Alors, l'esprit de vin.
L'esprit de vin.
L'esprit de vin. Je vais peut-être arrêter là. Maintenant, il faut que je récupère.
Alors, voilà, donc je voulais vous montrer un film donc, célèbre dans l'histoire du cinéma pour être un des premiers docu-fiction. Docudrama, voilà, je le retrouve. Il faudrait citer encore une fois des sites de Holocauste en 1979, qui a été qui a amené le mot docudrama en France d'ailleurs. C'est un film qui avait été extrêmement important puisque ce film avait fait découvrir grâce à une fiction, et Dieu sait si la fiction était.
Si la fiction était une fiction, hein, puisque, rappelez-vous, les acteurs étaient maquillés, les décors étaient parfaits, etc. Enfin, il y avait quelque chose d'assez obscène dans le film. Mais il n'empêche que c'est ce film qui a révélé presque au monde la réalité de la Shoah. Donc, comme on a dit à l'époque, que la mort d'une famille avait plus fait pour découvrir la Shoah que 6 millions de morts inconnues, enfin anonymes. Donc ça, ça avait été très, 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 très important. Ce mélange entre la réalité de la fiction avait donc véritablement secoué les consciences. Ce mélange de réalité documentaire et fiction, les films à costumes sont anciens et encore une fois aussi anciens que le cinéma, puisque dès 1898, Georges Hanau réalise une première Jeanne d'Arc de l'histoire du cinéma. Et quand on voit le Jeanne d'Arc de Georges Hanau, on n'est pas frappé par le réalisme de la reconstitution, mais à l'époque, on avait le sentiment de se retrouver carrément au Moyen-Âge. Hein. Donc, toutes les choses sont relatives. Donc, le désir de se servir de la fiction pour rétablir la vérité de l'histoire a été extrêmement très, très fort. Par exemple, l'assassinat du duc de Guise, d'André Calmette et Le Bargy, c'est un film qui date des années 1900 et qui a été un choc tout à fait extraordinaire à l'époque, hein, puisque le cinéma est apparu comme véritablement un art grâce à ce film historique. Et ce film historique a semblé aussi à l'époque aux gens donner la possibilité de se replonger carrément dans le passé tel qu'il était. Donc la vision documentaire du cinéma, de fiction, était très forte à travers ce film historique. Alors, pourquoi donc on utilise la fiction pour dire l'histoire? C'est un petit peu comme pour les fausses actualités, c'est parce que d'abord, pour dire le réel, hein, c'est d'abord parce qu'il y avait une absence de documents filmés pour les périodes antérieures au XXe siècle. C'est une tautologie. Avant l'histoire du cinéma, rien n'avait été filmé. Donc, il faut, quand on veut parler à travers des images du passé, eh bien, reconstituer, c'est comme donc la fiction va être un moyen de faire revivre. Mais les autres motifs qui vont faire préférer le langage de la fiction au langage du documentaire sont divers, et retenons ici ceux qui sont le plus souvent évoqués. Alors d'abord, la fiction, pour la plupart des gens, permet de toucher le plus grand nombre possible. D'abord parce qu'elle est plus chatoyante, hein, le recours aux costumes, aux décors, le charme des acteurs, la vie sentimentale des personnages, mais surtout parce qu'elle ne se contente pas de s'adresser aux artifices de la raison et de la pédagogie, elle ne craint pas de faire appel aux techniques du récit. Le récit, ce fameux récit qui, comme nous apprend Henri Coeur, réalise une synthèse du temps, et permet une succession de moments quelconques, il fait une histoire sensée. Hein. La fiction, c'est à la fois reconstituer ce qui a disparu, ce qui n'a pas été filmé, mais c'est également toucher au cœur, toucher au sens, toucher le plus grand nombre possible. Le récit, c'est également permettre de parler de thèmes récents qui n'auraient avec le, comment dirais-je, l'appareillage, avec l'ensemble de la mise en scène qui va permettre de faire passer un certain nombre de choses. Tout récemment, les chaînes de télévision ont entrepris une politique de mise en récit de fiction d'histoire très récente de notre pays. Hein. Il s'agissait à la fois de mettre en récit la grande histoire de Gaulle, la Seconde Guerre mondiale, des faits divers comme l'affaire de Minici, des événements particuliers comme le 16 octobre 1961, des tranches de vie, les communistes, une année d'études de l'ENA. L'oxymore fiction du réel a alors remplacé celui de docudrama qui connotait une histoire plus ancienne. Je voulais vous citer. Je suis perdue dans mon texte. C'est affreux cette histoire. Les fictions du réel sont les docudramas. Les fictions du réel sont une manière d'apprendre, mais il faut citer les documentaires dramatisés. Alors, qu'est-ce que un documentaire dramatisé? C'est un documentaire qui va être classé dans la catégorie de documentaire, clairement traité comme un documentaire, puisqu'il n'y aura pas d'acteur. Pourtant, on sait que ces documentaires dramatisés sont en réalité tournés avec la grammaire de la fiction. Alors, le plus ancien documentaire dramatisé, c'est le documentaire qui a été tourné par Robert Flaherty, Nanook l'Eskimo. Alors, Nanook se voulait montrer la réalité de la vie des Esquimaux à l'époque, hein. John Grierson parle de l'interprétation de la réalité. Ce Nanook date de 1926. Et pourtant, il va se servir d'un certain nombre d'éléments de fiction pour parler de la réalité. En particulier, il va mentir sur d'abord le nom, Hein. Le nom de Naonouk est beaucoup trop compliqué. C'est un nom, il s'appelle Astaghfirullah, quelque chose comme ça. Donc on va l'appeler Nanouk, ce sera plus rapide. Nanouk est censé, comme tous les Inuits, avoir plusieurs femmes. En réalité, Nanouk n'a qu'une seule femme, mais dans le film, on va faire croire qu'il en a deux ou trois pour faire plus esquimaux. L'igloo de Nanouk est trop petit pour être filmé qu'à cela ne tienne. On va le reconstituer un grand igloo. On va montrer que Nanouk pêchait à l'aide d'une lance faite en pierre, alors que depuis longtemps, Nanouk pêchait avec des fusils comme tout le monde. Nanouk va pêcher devant la caméra et en réalité il va rien pêcher du tout et ça va être l'assistant du metteur en scène qui va tirer un fil, le fil qui va faire tomber, donc Nanouk va tomber, se relever, tomber, se relever comme dans un film de Charlot donc à la fois Nanouk va complètement impressionner le monde hein, puisque vous savez que les Esquimaux que l'on mange maintenant dans les cinémas viennent de Nanouk l'Esquimau. Le choc qui a été montré ce film, et en même temps, c'est un film qui est truffé de mensonges. Donc on est au cœur du paradoxe du film, puisque le film dit le réel, puisque Nanouk est un vrai Esquimau, et en même temps, il est constamment confronté à des inventions, à des faux. C'est un vrai Esquimau, puisqu'il va mourir, et il va mourir perdu dans les glaces, et en même temps, c'est un faux dans la mesure où, encore une fois, tout ce qu'on raconte de sa vie est inventé. Donc, je voulais donc on voit bien que ce mélange de documentaire et de fiction pour faire connaître, c'est encore une fois ce genre de documentaire qui va être, jusqu'à maintenant, il va y avoir des documentaires qui vont utiliser des éléments de bidonnage, de faux, pour être plus vrai que le vrai. Alors, quel est le deuxième objectif? Alors, j'aurais voulu vous montrer des fictions du réel, puisque j'en ai un, je ne sais plus à quel moment je voulais vous parler de ça. Alors, je vais m'excuser de me retrouver dans mon... Mais je n'y arriverai pas. Je suis perdue dans mon texte. Bon. Je crois que je vais oublier mon texte et partir de mon souvenir, parce que je me suis perdue. Alors, dire le vrai à partir du faux, ça va être, encore une fois, l'intention des fictions du réel. Alors, je vais vous passer une fiction du réel. Non, je crois que je vais revenir. Donc, je vais vous... Le deuxième... Non, je vais suivre comme mon texte. Le deuxième objectif de ce mélange de vrai et de faux, c'est donc de se servir de ce mélange de documentaire et de fiction pour dénoncer, pour critiquer la forme. Hein. Alors, cette idée qu'on va se servir, on va montrer que grâce à ce mélange, on va permettre de dénoncer une forme, c'est-à-dire montrer que grâce à la fiction, grâce au documentaire, eh bien, le mensonge est dans la forme, ce sont les Anglais qui vont inventer ce système. Alors on appelle ce genre mock documentary, qui s'appelle aussi pastiche documentaire. Il s'agit d'utiliser la forme du documentaire ou du reportage d'actualité, c'est-à-dire de donner les apparences du vrai. Hein, le documentaire, l'actualité sont vrais, avec un contenu qui est totalement ou plus ou moins réel. Donc ça, c'est le principe de ces deux mock documentaries, comme en particulier les films de Peter Watkins, qui vont nous permettre d'inventer, par exemple, un film comme La Bombe. La Bombe, j'ai complètement... Est-ce que vous permettez de me donner 5 minutes pour retrouver mes esprits et retrouver mon texte? Parce que là, ça commence à devenir pénible. Et c'est gentil, mais je suis complètement... Ah oui, c'est parce que... Non, ça y est, j'ai compris. Pendant qu'on faisait tout à l'heure les manips, il y a un autre texte qui s'est mis sur mon texte. Effrayant. Voilà. Je suis retrouvée avec un mauvais texte. Je suis en plein dans mon sujet. Il y a un mélange de documentaire et de fiction sur mon affaire qui est parfaite. Donc il y a l'idée que grâce à la... Ah bon, mon texte est là. Vous y retrouverez peut-être mieux que moi. Donc il y a cette idée qui est importante, qu'on va pouvoir dénoncer, Vous avez tout mon texte derrière ou pas? Non. Il y a trois textes en même temps. Bon, donc, on parle aussi, John Corner parle aussi de, d'imitation documentaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir... Donc, les films de Peter Watkins, est-ce que vous connaissez Peter Watkins ici, certains? Non? Alors, ce sont des films qui se servent donc d'une forme documentaire pour, par exemple, La Bombe. C'est un film qui tourne l'histoire d'un faux documentaire qui invente... donc, on est dans le cadre d'un documentaire, c'est un journaliste qui fait une enquête. Et il fait l'enquête sur le fait qu'une bombe atomique a éclaté à Londres et que, donc, on voit les gens en train de mourir de manière massivement. Donc, la forme est celle du documentaire. Le noir et blanc, le journaliste, le ton, le commentaire, et en même temps on raconte quelque chose qui évidemment n'a pas eu lieu. C'est de faire le seul film qui a été d'ailleurs interdit par la BBC. Le film est tellement d'un réalisme éprouvant, c'est un film qui a été interdit par la BBC. Donc qu'est-ce que voulait faire Peter Watkins? Il veut dénoncer ce qu'il appelle la forme documentaire. Il veut montrer que l'on peut raconter des mensonges absolus avec la forme du vrai, hein, avec la forme documentaire. C'est la même chose que lorsque Pierre Beuchaud, est-ce que vous connaissez Pierre Beuchaud? Pierre Beuchaud, dans l'Hôtel du Parc, se sert de la forme documentaire, c'est-à-dire qu'il va tourner un faux documentaire sur les collaborateurs, il va tourner des interviews il va interviewer des acteurs qui jouent des vrais personnages, qui vont dire des vrais textes, c'est-à-dire les textes qui ont été écrits par les collaborateurs. Mélange du vrai et du faux, forme documentaire, utilisation d'acteurs pour dire de vrais textes, fabrication de fausses actualités à l'intérieur de ce film, dans l'Hôtel du Parc, donc de 1992, on ne sait plus où est le vrai, où est le faux, mais c'est dans l'objectif à la fois de dénoncer la possibilité qu'à l'image de dire du vrai et du faux, et c'est en même temps se servir de l'effet de réalité et l'effet de mensonge de l'image. Vous connaissez peut-être aussi le film de William Carell qui s'appelle Opération Lune. Opération Lune, c'est un film qui a la forme d'un documentaire. Hein, c'est aussi un mock documentary. C'est un film qui a la forme d'un documentaire. Il s'agit de montrer de faire croire que le film montrant les hommes sur la Lune était en fait une pure invention. Alors, qu'est-ce que fait William Carell? Il fait un montage du type documentaire, c'est-à-dire que vraiment, on reconnaît complètement les acteurs, hein, on voit Kissinger, on voit des hommes politiques tout à fait connus et reconnus, et en même temps, ces individus ne disent que des vraies histoires, ce sont des vraies paroles, mais grâce au montage, en réalité, on fait dire aux acteurs le contraire de ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'en réalité, tout le monde savait aux États-Unis qu'en fait, on avait raté le film des hommes qui marchaient sur la Lune, et que donc c'était Stanley Kubrick qui avait fabriqué un film qui s'appelle donc montrant les hommes marchant sur la Lune. Donc l'idée de ce film, c'est de faire croire que l'on peut, à partir d'images vraies, raconter quelque chose de totalement faux. Hein. Mock documentary, on se moque. Donc c'est une manière de montrer, de dénoncer la forme fictionnelle, la forme documentaire, et de montrer qu'il est possible de raconter n'importe quoi avec les apparences du vrai. Donc ça, c'est la deuxième forme, c'est la deuxième objectif dont je vous parlais, qui était utiliser ce mélange, ces hybrides, pour dénoncer la forme et les images. Alors, le troisième objectif de ces types d'émissions, de ces types d'hybrides, c'est de révéler, de dévoiler. On va se servir du mélange du documentaire et de la fiction pour dévoiler aux téléspectateurs une réalité. Alors ça, c'est le genre docu-fiction tel que vous le connaissez maintenant, c'est-à-dire ce mélange de fiction et de documentaire dans les mêmes émissions. Alors, ce sont au départ les premières émissions docu-fiction ont traité de périodes de l'Antiquité, d'histoire ancienne, et aussi également des premiers hommes, l'Odyssée de l'espèce, Pompéi, tous ces films où les pyramides montraient, donc utilisaient des procédés des images numériques pour refabriquer, pour faire ressortir quelque chose qui avait totalement disparu et montrer la réalité, puisque l'idée c'est de fabriquer des images de synthèse à partir d'éléments scientifiques. Donc on reconstitue des événements qui ont évidemment disparu, on reconstitue des lieux qui avaient disparu, des pyramides, des Pompéi, grâce aux images 3D. On mélange des interviews d'historiens, on reconstitue avec des acteurs des scènes, et cet ensemble de films est destiné à révéler, encore une fois, le passé tel qu'il existait. Alors, ces premiers docu-fictions ont eu beaucoup de succès, hein, il s'agissait vraiment de faire émerger le réel et la réalité à partir de cette technique. Et progressivement, ce procédé a été utilisé pour tourner sur des histoires, des films récents. C'est ça dont je voulais vous parler tout à l'heure. Je croyais, ce sont les fictions du réel. Ces fictions du réel vont faire alterner des images documentaires avec des reconstitutions, parfois même des interviews, parfois une voix off qui permet aux gens de faire le lien. Et je voulais vous présenter, si j'y arrive, dans cet immense désordre, un film qui va vous amuser, puisqu'il s'agit de Human Bomb, qui est un film qui avait été fait à propos d'une prise d'otage en 1993, et dans lequel on va voir ce mélange de fiction et de documents. Donc ça commence par un report des journaux télévisés que vous connaissez, et puis progressivement, donc il s'agit d'une prise d'otage qui avait été faite à...
Le preneur d'otage exige une
en 1993 dans une école maternelle. Alors, ce docu-fiction est basé sur les documents et les enregistrements, donc on vous dit bien qu'il s'agit d'un documentaire. Hein, c'est bien l'idée de réel.
Mourir plutôt que d'être pris vivant, qu'il serait prêt à se servir des enfants comme bouclier pour protéger sa fuite.
Les enquêteurs ont la certitude.
Encore une fois, des documents de l'époque, des JT.
Son scénario,
vous rappelez peut-être de l'histoire. Hein, c'est un homme masqué qui est rentré dans une école, dans une petite école à Neuilly, en prenant des enfants en otage, en demandant de l'argent, etc. Voilà, alors là on rentre dans la fiction. Hein, d'ailleurs, c'est un film écrit par, c'est une fiction. Donc, on vous donne des éléments documentaires. On vous signale que c'est une histoire vraie. Ensuite, on vous donne des éléments de fiction. Cette petite, d'après l'ouvrage, donc il s'agit bien d'un livre. Et puis là, ce sont les acteurs qui jouent, puisqu'on voit l'institutrice, qui va être l'actrice principale ou presque. Donc il s'agit bien avec ce mélange de réalité et de fiction.
On va avec l'eau, on se lave les mains. Camilla, à tous les arts, on rentre en classe. Allez, on va pas faire de gymnastique aujourd'hui, c'est bientôt la fête des mères. On est un petit peu en retard, alors on va finir Nicolas.
Alors, Tony Comiti est un producteur qui est spécialisé dans les films de reportage. C'est intéressant aussi de voir l'origine de la production et des auteurs.
Que vous voulez. Vous n'avez rien à faire ici, sortez de ma classe.
La prise de tâche commence. Mais ce que je vais vous montrer, qui va vous amuser bien plus, évidemment, c'est Sarkozy.
Voilà. Pour offrir de belles vacances à leurs enfants.
Vous êtes dingue. Comment vous pouvez proposer de l'argent?
Attends. Il faut rêver. Alors voilà.
Vous
Nicolas Sarkozy, joué par un acteur.
Voilà. Je viens de la Banque de France, j'ai ratissé tout ce que je pouvais ratisser. 5 millions en plus.
Vous voulez lancer demain ?
Vous vous rendez compte qu'il est 1h du matin et que j'ai tenu ma promesse. Maintenant, il faut me donner la petite Laura. J'ai promis à sa mère de la lui ramener.
Laura est en train de dormir avec son nounours.
Je vous en supplie, donnez-la-moi. J'ai tout fait, hein. Je peux rien faire de plus. Moi, j'ai besoin de Laura pour être crédible vis-à-vis des parents. Si je ne suis pas crédible vis-à-vis des parents, je ne peux plus rien contrôler.
Pour l'évacuation, qu'est-ce que vous allez me fournir ?
Pour l'évacuation, je fournis le camion. Enfin, pas le camion, l'espace. Je fournis l'arme en safran. Je fournis tout ce que vous voulez. Madame, passez-moi l'enfant, s'il vous plaît. Allez, viens là, ma chérie.
Reprends la petite, là.
Je sais pas, moi, je croyais que vous étiez d'accord.
La prochaine fois, vous me demanderez. C'est le dernier enfant qui sort d'ici.
D'accord.
Encore une. Voilà, vous l'avez promis.
Nous revenons sur cette prise d'otage de Neuilly. D'abord, Stéphane Soumier, au terme d'une nuit d'attente, d'une nuit d'angoisse devant la maternelle du commandant Charcot à Neuilly.
La nuit d'un contraste, le calme des enfants dans leur salle de classe au rez-de-chaussée, les efforts d'une institutrice pour les faire jouer.
Vous organisez une réunion avec tous les parents. Je garantis la liberté de tous les visiteurs. Pas des enfants, bien sûr.
Je ne voudrais jamais repartir, je vous le garantis.
J'ai demandé que les enfants soient endormis.
Vous imaginez le choc pour les parents ?
Écoutez, vous voyez bien que je ne fais pas de mal aux enfants. C'est les flics qui font exprès de mentir. Inquiéter les parents pour pouvoir m'abattre. Tenez.
Donnez ça aux parents.
Oh putain.
Elle avait pour instruction de la part d'HB de remettre un certain nombre de documents de ce type pour les parents. Donc quand elle arrive dans la salle,
dans le gymnase,
elle commence à sortir l'alias et à donner les documents aux parents. Donc là, tout de suite, je m'empare des documents et je franchement, je ne me souviens pas comment je noie le poisson. Hein.
Dans l'ensemble, les parents sont calmes. Parce qu'on nous transmet une information qui n'est pas totale.
Alors, je ne serai pas pris vivant. Méfiez-vous de la police. La sauvegarde de vos enfants dépend de ma sécurité. Faites pression pour que toutes mes exigences aboutissent. Et je n'échangerai aucune parole.
On nous donne un papier comme ça, on devient fou, les parents.
J'ai une pile dans le ventre.
Le nain à cale, maître Urinamok, il est mort. Il était trop vieux.
Plus cette situation dure, plus les enfants seront traumatisés.
Mais il n'y a pas un...
Complètement d'accord avec vous.
Je comprends pas. Vous avez votre argent.
Il y a pourtant bien
plus. On a mis des voitures à votre disposition. Je pense pas que vous soyez un salaud.
Ah bon ?
Non. Je crois sincèrement que vous êtes quelqu'un de bien.
Vous vous trompez ?
J'espère que non.
C'est une araignée !
C'est quand même la vie de l'homme. Vous avez toujours pensé jusqu'ici.
Pense aussi à la mienne.
D'accord. Vous avez pensé à tout, vous avez votre plan pour vous évader.
Nous, on a été pris par surprise.
Alors là, on voit bien que la fiction apporte quelque chose que n'apporte pas un documentaire, c'est-à-dire l'aspect psychologique, l'ambiance, l'aspect humain.
Tu veux que ça chauffe ton vibro ?
Ça donne une humanité à Human Bomb, qui s'occupe des enfants.
J'en ai marre de votre prise d'otage. J'en ai marre de vos caprices, de vos humeurs. Vous avez pensé aux parents, à la douleur que vous leur faites endurer ? C'est ignoble.
Et en même temps,
plus,
ça, c'est ce que l'institutrice a raconté, qu'elle était vachement courageuse. Peut-être qu'elle n'était pas du tout courageuse.
Arrêtez cette conversation.
Tant pis pour vous, je m'en vais.
Vous partez. Et je sais que vous reviendrez.
C'est pas le fait qu'il soit tout seul avec les enfants qui peut nous inquiéter. Ce qui va nous inquiéter, c'est ce qu'il va dire et ce que l'on va entendre.
À partir de maintenant,
donc évidemment, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, vous souvenez peut-être, il y a une vraie controverse sur la fin de Human Bomb. Et on ne sait pas très bien comment il meurt. Et la fiction est obligée de faire un choix. Et le choix qu'elle fait, c'est la version officielle. Hein. Alors, je vais montrer
les enfants et leur maîtresse retenus en otage pendant 46 heures à Neuilly-sur-Seine.
De nouveau, extrait de documentaire, enfin de journal télévisé.
Je crois qu'on va essayer de se couper de tout ça et de reprendre une vie normale et retrouver notre spontanéité.
Voilà. Attends, je crois que c'est là le passage où il... Parce que c'est évidemment le moment où... la fiction, contrairement au documentaire, est obligée de choisir un point de vue. Par exemple, il y a eu deux Jean Moulin.
Si on avait mis des
somnifères en café. Un sur TF1 et un sur France 2, et les deux ne disent pas la même chose sur la trahison qui a mené Jean Moulin à la mort. Parce que la fiction a été obligée de choisir. Alors qu'un livre d'histoire ou un documentaire peut dire il y avait une possibilité ou une autre. La fiction ne peut pas faire ça. C'est ce qui se passe passer dans la fiction du réel.
Laisse mes filles tant qu'il n'y a pas d'ennui. On va attendre, il va se relâcher.
Et évidemment, alors évidemment, c'est ce que fait l'historien, il fait la même chose. Il reconstitue à partir de témoignages, à partir d'archives, et il n'était pas là pour vérifier que c'était vraiment ça. Mais il semble évidemment qu'il y ait des partis pris constants qui sont plus compliqués.
Je pars de l'hypothèse que le produit n'a pas fait d'effet et que
voilà. Alors ça c'est la version officielle.
Son sommeil peut être léger et je donne des instructions aux gens qui vont intervenir. Je leur dis de ne pas hésiter à tirer s'il bouge et ne serait-ce qu'un œil.
Donc on voit bien, il y a un débat, c'est est-ce qu'on a tiré sur un homme endormi puisque ou bien ce qui quand même pose un problème. Ou pas. Donc on voit bien que la version officielle, elle est donnée par l'interview. Mais la fiction, qu'est-ce qu'elle va décider ? Elle a quand même montré qu'il dormait pas mal.
Vous savez ce qu'on va faire ? Non. On va jouer à la tortue. Qui veut jouer ?
Non.
Chut, alors, tout le monde caché sous les matelas.
Allez. Tout le monde caché sous les matelas.
Attention, je la répète.
Voire involontairement faire déclencher son dispositif et
Moi, je suis très sceptique quant à l'issue favorable de l'opération.
Et je suis persuadé que, qu'il a piégé son sac, que ça va sauter. Mais bon, il faut y aller, il faut y aller.
Donc, on voit bien là, la question de la fiction est posée, puisque la fiction est obligée encore une fois de choisir sur plusieurs versions. Donc, on voit bien que là, dans la fiction du réel, elle choisit. Alors, si on pourrait montrer aussi un extrait qui est très intéressant, qui est la question des personnages historiques. Alors, on a vu Nicolas Sarkozy, mais c'est intéressant de voir si le technicien peut nous montrer un extrait d'un film qui s'appelle Le Grand Charles, qui a été tourné sur le général de Gaulle. Et là aussi, c'est intéressant, ça pose la question de peut-on, comment fait-on, lorsque l'on choisit de représenter un personnage historique réel. Est-ce que vous pouvez passer le grand Charles ? Et alors, ce qui est amusant, c'est de voir comment Bernard Stora a essayé systématiquement de reprendre des émissions d'archives et de les reconstituer pour faire passer ce... Mais c'est pas moi qui manipule. Hein. Alors on voit parfois la réalité, c'est comme la fiction.
Exercer mes fonctions.
Je me souviens, c'était en 1969 et je votais pour la première fois. C'était un référendum. De quoi s'agissait-il au juste ? Tout le monde s'en fichait éperdument. On votait pour ou contre De Gaulle. Oui, il restait. Non, il partait. J'ai voté non, il est parti. Quelques semaines plus tard, les journaux du monde entier ont publié cette photographie. Oui, je me souviens de cette silhouette enveloppée d'un ample manteau sombre, avec Marchand à ses côtés, un homme qui ressemblait un peu à Paul Meurice dans le monocle riz jaune. Et trottinant à leur rythme, Madame de Gaulle, un curieux petit chapeau imperméable sur la tête. Il plane sur cette image une telle atmosphère de désolation, une si poignante solitude, qu'on ne peut que s'interroger. À quel instant de sa vie, à quel drame, à quelle ingratitude, à quelle faute pensait-il à ce moment? En regardant attentivement la photo, on se rend compte que De Gaulle est sans doute en train de parler, ce que semble confirmer l'attitude attentive de Paul Meurice à ses côtés. Oui, mais voilà, que dit-il?
Vous voyez, le documentaire est interprété comme déjà une fiction, puisqu'on dit que c'est Paul Meurice qui joue. Alors voilà, le passage, comme je vous disais, on prend un documentaire, un document, et on l'imite.
Ça n'a pas été négatif, loin s'en faut, durant ces années.
12 ans, je vous dis. Démontrez-moi que j'ai tort.
Mais 12 ans, qu'est-ce que vous dites, Charles? Début juin 58, fin avril 69, 11 ans à peine.
Je parlais au commandant Floric de ma démission en 46 et des 12 années qui ont suivi. À la période à laquelle vous faites allusion, j'ai la faiblesse de croire, en effet, qu'elle n'a pas été tout à fait perdue pour la France. Dieu merci.
Votre démission en 46, voyons Charles, tout ça est tellement loin. Je doute parfois de l'avoir vécu.
Disons que je n'ai pas votre chance, voilà tout. Midi passé, Floric. Allez renifler ce qui se mijote un peu du côté des cuisines, sans vouloir offenser le peuple irlandais. Je ne crois pas que ce qu'on nous sert justifie de se mettre à table des heures impossibles.
Là, on fait parler le document. Hein. C'est-à-dire qu'on imagine que quand on voit De Gaulle sur la plage, le fameux document que tout le monde connaît, il était en train de parler de la mauvaise nourriture irlandaise, parce qu'on ne sait évidemment rien.
Je me croyais enfin tranquille et loin de cette affreuse politique qui vous a fait tant de mal. Oh, je sentais bien votre impatience. Je craignais bien quelques retours de flamme, mais large et d'un, j'espérais.
Oui. Oui, je vous entends parfaitement. Vous espériez me garder pour vous toute seule. N'est-ce pas? Notez, je le prends comme une marque d'affection. Et je dirais même d'amour. Ce monde n'était pas tout à fait déplacé au-delà d'un certain âge. Car savez-vous, il y a deux choses affreuses chez les vieillards. L'égoïsme et l'amour. Enfin, quelle que soit votre satisfaction personnelle, mettre une bûche au feu, corriger le petit chien quand il saccageait vos plates-bandes, admettez que De Gaulle eût été sans doute mieux employé à d'autres tâches.
Je peux supporter de vivre toute ma vie aux côtés d'un homme qui paraît de lui la troisième personne.
Tranquillisez-vous, ma chère. Le plus dur est fait. C'est ainsi que voulez-vous. Oui. C'est ainsi.
Le repas est servi, mon général.
Il s'agit bien, merci.
D'une sorte de rôti tout à fait spécial.
Alors voilà, on parle que de nourriture hein, en bon français. Donc là, c'est vraiment un modèle hein, de ce dont je vous essaie de vous parler depuis tout à l'heure, c'est-à-dire comment on se sert de la fiction pour faire parler des documents, hein, des actualités, comment les actualités se transforment en fiction, puisqu'on voit Paul Meurice dans des documents d'actualité, comment la subjectivité du réalisateur s'insère à l'intérieur du document et s'insère à l'intérieur de la fiction pour créer un genre, quelque chose d'un type nouveau, d'un genre nouveau, un hybride, une chimère, quelque chose qui tend à la fois donc parler de la réalité et surtout, ce que je vous disais sur ce fameux troisième objectif, c'est-à-dire révéler. Hein. C'est grâce aux docu-fictions qu'on va révéler quelque chose. Alors il y a cette idée de révéler aussi dans un genre, et là je n'ai pas d'image parce que c'est très amusant et assez rare, qui est la télé-réalité. Vous connaissez le dispositif de la télé-réalité, hein ? Eh bien elle a été utilisée, ce dispositif a été utilisé pour faire de l'histoire. Il s'agissait, comme pour dans la réalité, de retrouver l'authenticité. On n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans le réel, on est dans l'authentique. On va, grâce à la télé-réalité, retrouver l'authenticité du passé. Alors pour cela, on va replacer des Anglais, des descendants d'un village dans des tranchées, hein, The Trench, ça s'appelle, pendant la guerre de 14, enfin pas pendant la guerre de 14, ça se passe en 1914, mais c'est comme si, hein, on les met exactement dans les mêmes conditions que pendant la guerre de 14, des tranchées, il fait froid, c'est la même saison, ils n'ont rien à manger, il y a des rats, il y a de la boue, il y a de l'eau, enfin c'est exactement pareil. Bien sûr, personne ne risque de mourir, mais enfin à part ça, c'est pareil. Enfin, on voit bien le côté complètement artificiel de la situation, mais il y a cette idée que quand même, malgré le fait que ça soit absolument rien à voir, puisque finalement, ce qui est embêtant dans la guerre de 14, c'est quand même le fait de mourir, c'est pas tellement le fait de mal manger, eh bien, il y a l'idée très forte qu'on va retrouver l'authenticité du passé. Alors, même chose pour un feuilleton français qui a été fait d'ailleurs, je crois, avec des chercheurs du CNRS, qui quand même pose des problèmes, qui consistait à replacer des gens dans les mêmes conditions que sous la préhistoire. Les faire loger dans des cahutes, dans des grottes, là aussi sans vêtements, sans électricité, etc. Comme si les hommes étaient pareils. Enfin, en tout cas, l'idée c'était de voir si on allait retrouver des gestes, des comportements, des sentiments. On a fait la même chose aussi pour les champions d'Olympie. L'idée, c'était de prendre des champions de haut niveau, de très haut niveau français, et de les faire revivre les Jeux olympiques de la Grèce du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et comme ça, on allait retrouver des choses de la réalité. Et d'ailleurs, apparemment, on a découvert qu'en réalité, on ne peut pas, enfin les hommes surtout, ne peuvent pas courir certaines vitesses nues. Voilà. Donc ça, c'était une découverte historique grâce à la télé-réalité. Donc il y a cette idée qu'en replaçant les gens dans une situation de réel, on va, en mélangeant donc le vrai et le faux, le vrai c'est les connaissances historiques que l'on a d'un élément, le faux c'est évidemment la situation, pour retrouver quelque chose de l'authenticité. Donc télé-réalité, docu-fiction sont les moyens de faire émerger le réel, faire émerger la réalité qu'on a trouvée tout récemment. Alors pour terminer, donc, j'ai voulu vous montrer, j'essaie de faire une synthèse pour essayer que vous retrouviez dans mon discours totalement perdu. Donc, je vous ai voulu montrer que cette forme hybride avait eu trois types d'objectifs. L'un, de faire connaître le réel grâce au faux. Deuxième objectif, se servir de ce mélange pour révéler le mensonge, pour révéler le faux profond qui existe dans l'image. Troisième type d'objectif du mélange documentaire-fiction, c'est de dévoiler, de permettre de connaître, d'apprendre une authenticité que seul ce mélange permet de révéler. Alors que dire en conclusion de cette histoire, hein, comme vous le savez, qui démarre à partir de 1895 ou en tout cas 17, très tôt. Eh bien, on peut voir, à mon avis, trois victoires. La victoire de la fiction, la victoire de la passion pour le réel et la victoire du faux. Et ça me paraît pas mince. En effet, on a les contemporains ont accepté de dire que pour faire émerger le vrai, eh bien, il faut passer par le faux, que pour trouver le réel, eh bien, il faut se servir de la reconstitution. Cette victoire de la fiction, qui me peut paraître étrange d'une certaine manière, elle vient, à mon avis, beaucoup d'une double confusion qui est à la fois une critique du document. Hein, c'est-à-dire que depuis des années, maintenant, on sait que les documents ne sont pas cette garantie totale de vérité et de réel qu'elle a semblé aux premiers inventeurs de l'image. On sait maintenant que les documents de la guerre de 14 sont des faux, qu'ils ont tous été reconstitués, pas à l'aide d'acteurs, mais à l'aide de soldats. Il n'existe pas, ou plutôt il existe une image de combat pendant la guerre de 14, une seule, et toutes les images que nous voyons sont des faux, ce sont des reconstitutions tournées par l'armée. Nous savons que la plupart des images qu'on utilise dans les documentaires, vous voyez par exemple le film récent Apocalypse sur les Allemands, sont des films de propagande, c'est-à-dire que les films dont nous nous servons pour reconstituer le réel sont en réalité des faux, des mensonges, des films de propagande. Donc cette critique du document qui maintenant ne fait pas question, d'une certaine manière a permis la victoire de la fiction. Puisque tout est faux, eh bien, la fiction n'est pas plus fausse que le document. Je crois qu'on est arrivé à cette idée qui me paraît intéressante. Même si Georges Didier Huberman dit qu'il croit, lui, qu'il y a quand même une vérité de l'image, comme il dit, les images malgré tout. Dans ce débat qu'il oppose à Claude Lanzmann sur la question de la Shoah. Vous savez que Lanzmann disait que s'il trouvait des documentaires montrant la réalité de l'extermination. Des juifs, eh bien, il les jetterait. Hein. Eh bien, Georges D. Lieberman dit non, il existe trois images d'Auschwitz, trois images d'extermination. Ces trois images-là, elles disent plus au monde que tout le reste. Hein. Et donc, il faut comme les images malgré tout. Donc, victoire de la fiction, passion du réel, en effet, puisque finalement, quand Lumière invente le cinéma, nous le savons, il l'invente, lui, le fabricant d'une image photographique, hein, donc lui, celui qui a fait sa fortune en imprimant le réel, eh bien, il pense que c'est une invention qui, d'ailleurs, il pense que ça n'aura pas d'avenir. Qui va servir à faire des films pour filmer les enfants, hein, pour filmer des films de famille. Ça aura l'avenir d'ailleurs, hein, nous le savons. Mais il ne voit pas l'importance que va avoir le cinéma dans l'invention, dans l'imagination, c'est-à-dire le film de fiction. Et c'est ça qui va permettre le développement, le vrai succès du cinéma, elle vient de l'invention. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu donc imaginer que le cinéma allait faire disparaître tout sens du réel. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous voyons maintenant Avatar. Hein. Donc, il y a une espèce de revanche sur le réel du film. C'est-à-dire qu'il y a une revanche des premières idées, enfin, contre Lumière, finalement, c'est Méliès qui est en train de gagner complètement, puisque notre passion du réel, hein, puisque nous faisons des films qui racontent finalement surtout du réel. Nous servons de la fiction pour raconter des histoires vraies. Des histoires, sauf depuis quelque temps, effectivement, où tout d'un coup, il semble qu'il y ait un retour, un reflux de cette passion du réel. Et troisième victoire, me semble-t-il, c'est la victoire du faux. Hein. C'est-à-dire que là encore, on admet qu'on peut dire le vrai grâce au faux. Et je crois que je voulais terminer sur Apocalypse, par exemple. C'est pas moi, c'est vous. D'accord, pour une fois, c'est pas moi qui fais des bêtises. Ce qui me semble intéressant, c'est de voir qu'on colorise des archives noires et blancs sans que ça pose problème. On reconstitue, comme on l'a vu à propos de Gaulle ou de Nicolas Sarkozy ou des faits divers ou Dominici ou bien, je ne sais pas si vous avez suivi aussi l'affaire Seznec. On reconstitue avec une version très particulière de l'histoire, c'est-à-dire on fabrique un faux total et sans que finalement les historiens ne réagissent vraiment. Les gens acceptent cela et il semble d'une certaine manière que le faux a acquis une certaine légitimité dans l'espace public. Fausses archives, versions fausses, au nom parfois de la vérité et de l'authenticité. Et c'est intéressant de voir. Je crois que c'est aussi une certaine défaite de l'historien. C'est-à-dire que l'historien ne peut pas et n'ose pas intervenir dans l'espace public en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça parce que moi, historien, je sais où est le vrai, je sais où est le réel. » Parce que lui-même, l'historien, a été contesté au niveau du vrai ou du réel par le linguistique terme, par cette école historique américaine et anglaise qui a été relayée par Paul Venn, qui dit que finalement l'histoire de l'historien n'est-il pas finalement un récit comme un autre, une fiction comme une autre, qu'il s'agirait là aussi de contester. Et les historiens sont secoués. Le socle sur lequel il vivait, évidemment, est ébranlé par cette contestation qui lui vient du cœur même de son métier. Voilà, je vous remercie et je vous demande pardon pour le désordre de mon ordinateur. Merci.
Merci à vous. En effet, vous avez parlé de l'historien et la première conférence de ce cycle, dont votre conférence clôt très très bien notre cycle, parce que le premier conférencier qui est venu, c'est Christophe Prochasson, qui nous a parlé des historiens de ses émotions. Donc, vous voyez, on est aussi dans une même problématique. Est-ce qu'il y a des questions ? On a 5 minutes pour les questions.
J'ai 3 questions à vous poser. D'abord, quelle différence avez-vous fait entre la notion de faux et celle de fiction dans votre exposé ? Et en quoi vous écartez-vous de la distinction qui était une absence de distinction d'ailleurs entre le faux et la fiction en Grèce ancienne, où on parlait de fiction comme pseudos, comme ce qui est trompeur ? Et en quoi vous rapprochez-vous plutôt de travaux récents comme par exemple ceux de Jean-Marie Schaeffer dans son livre « Pourquoi la fiction au seuil ?» qui aborde la notion de manière beaucoup plus nuancée en établissant toutes sortes d'analyses parfaitement fines sur les différents contextes de fiction possibles. Deuxième question. On va dire que ça en comptait pour deux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et dernière question, je n'ai pas bien compris votre plan, le plan de votre intervention. Avez-vous parlé des trois objectifs différents d'une même forme qui serait le docufiction, ou bien avez-vous évoqué trois formes différentes, puisqu'il me semble que vous avez abordé au cours de votre exposé des formes qui sont extrêmement différentes, puisque vous avez commencé sur des choses qui s'apparentent au faux, voire au canular, pour terminer sur plusieurs formes avec les docudramas et enfin les docufictions de formes qui sont réellement des hybrides et qui se présentent comme telles aux spectateurs. Donc il y a l'établissement d'un contrat tout à fait différent. Donc avez-vous évoqué trois objectifs d'une même forme ou bien trois formes entièrement différentes? Et ne pensez-vous pas que dans ce cas-là, il serait préférable d'apporter des nuances et de focaliser davantage l'exposé sur les formes nouvelles de contrat que peuvent présenter ces formes et que peuvent proposer ces formes aux spectateurs, plutôt que d'en rester à ces catégories de vrai et de faux qui sont peut-être un peu trop tranchées par rapport à ce que proposent justement ces formes hybrides. Je vous remercie.
Alors, la première question, d'une certaine manière, c'est l'ensemble de mon exposé, hein, donc avec, c'est-à-dire essayer de montrer comment on passe de l'un à l'autre, en tous les cas à travers un certain nombre d'exemples, du vrai et du faux. Alors, j'utilise le mot faux avec son sens d'imitation, hein, donc il n'y a pas d'esprit de normatif, je ne dis pas c'est mal ou c'est bien, je dis simplement le faux, c'est une imitation du réel, hein, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là que je prends. Alors, en ce qui concerne l'organisation de mon exposé. Au départ, le mot docufiction, je l'avais pris comme un genre nouveau, d'un type nouveau, hein, qui naît avec à peu près autour de l'Odyssée de l'espèce, hein, à partir des travaux des premiers films faits par les Anglais, avant, sur les dinosaures, en utilisant l'image numérique des 3D. Et puis, je me suis dit qu'en réalité, ce genre, même s'il avait des caractéristiques propres, et je pense qu'il existe un nouveau genre, hein, avec les docufictions, c'était quand même poser la vieille question du mélange entre la réalité à la fiction, et donc j'ai utilisé le mot docufiction pour recouvrir l'ensemble de ces émissions, de ces films et d'émissions, documentaires ou fiction, qui cherchent à dire, qui cherchent à mélanger le vrai, enfin le vrai, des éléments de documentaire avec des éléments de fiction, que ce soit en privilégiant la fiction ou privilégiant les documentaires. Donc à chaque fois, c'est-à-dire que il y a un genre qui est le documentaire pur. Disons, je ne sais pas, les films de Chris Marker. Et puis, il y a des fictions pures, c'est-à-dire les films d'Alain René. Enfin, encore, il y en a pas mal qui sont des docufictions, donc je choisis mal. Les films de Patrice Lecomte. Et puis, il y a entre... Et puis, et donc ça, ce sont les deux genres que je ne traite pas. Et puis, en dehors de ces genres, il y a un certain nombre de formes, de genres, qui essayent de mélanger les grammaires de la fiction et du documentaire. Comme je disais, il y a à la fois des formes, trois types de formes, trois types de contenus. Et puis, il y a des mélanges, des flèches qui se font entre ces formes, ces contenus, pour élaborer un certain nombre de genres. Et ces trois genres, pour essayer de ne pas faire une typologie à plat, il y a ça, puis il y a ça, il y a ça. Non, il n'y a pas non plus la possibilité de faire des chronologies, de faire une présentation chronologique. J'ai voulu la présenter en fonction de trois types d'objectifs qui sont portés par ces genres. Donc le premier objectif en général, c'est on mélange le documentaire et la fiction pour avoir le plus grand nombre possible de public, pour un public plus grand, pour faire connaître, en se servant des qualités de l'une et de l'autre, pour faire connaître, pour apprendre. Et puis le deuxième objectif de ce genre d'hybride, eh bien, c'est de dénoncer, c'est-à-dire de se servir du passage entre fiction et documentaire pour montrer que l'on peut dire du vrai avec du faux et surtout faire du faux en ayant l'apparence du vrai. Hein, c'est donc le mock documentary et puis c'est les films de Watkins. Et puis le troisième objectif, et là c'est le nouveau genre, donc, mais c'est à la fois un nouveau genre et un genre qui fait appel à d'autres choses plus anciennes, qui est de dire en même temps, ce mélange de documentaire et de fiction, et en particulier grâce aux images numériques, eh bien, vont nous permettre de révéler des choses qu'on ne pourrait pas connaître. Alors évidemment, le type même, c'est le visage de Toutankhamon. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le visage de Toutankhamon ? C'est une pure fiction. C'est une pure fiction dans le sens du mot invention, hein, puisque ce n'est pas du réel. Et en même temps, on va créer le visage de Toutankhamon avec des procédés scientifiques. À la fois parce qu'on a la structure du visage, on a la possibilité, grâce aux images numériques, donc c'est des éléments mathématiques qui nous permettent, on va reconstituer le visage plus vrai que le vrai, et en même temps, on voit bien que le visage de Toutankhamon, eh bien, c'est quand même qu'une image, c'est juste une image, comme dirait comme dirait Danet. Donc voilà. Alors ça, c'est le summum. Moi, j'ai des films qui ont été faits par la BBC, extraordinaires, dans lesquels on va reconstituer le visage d'Hitler ou de Churchill à partir de documents d'actualité. On prend les visages des documents d'actualité et on les colle sur des acteurs. Donc on est complètement dans un hybride complet. Alors, est-ce que c'est du faux ? Alors, le mot faux, on voit bien que c'est une imitation de ce qui est vrai, et en même temps, il y a des éléments de réalité. Voilà. Donc, il y a l'idée que grâce à ces techniques, on va pouvoir révéler, montrer au monde, montrer à notre époque la vérité, le réel, l'authenticité. Ça, c'est quelque chose qui me paraît nouveau. Donc voilà, trois objectifs qui m'ont permis de trier dans ces hybrides qui naissent avec le cinéma. Parce que de toute façon, le cinéma lui-même est un hybride. Hein. Donc c'est pour ça qu'on pourrait aller très loin, mais il faut bien de temps en temps faire des distinctions. Le cinéma est un hybride, c'est ce que montre Féro, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que le cinéma en soi est à la fois du réel et du fictif.
Oui, madame, j'ai une question. En synthèse de tout ce que vous avez dit, je voudrais vous demander si vous ne pensez pas que le docufiction est un outil de manipulation des spectateurs, du peuple.
Alors, quand je dis faux, je prends le risque que l'on parle de manipulation. D'ailleurs, au départ, mon livre, je voulais l'appeler « La fabrique du faux ». Et on m'a dit « Non, c'est trop normatif, ça fait trop manipulation ». J'aurais eu l'air en disant on fabrique du faux, j'aurais eu l'air de dire qu'en fait on fabriquait pour manipuler. Donc je crois qu'on ne fabrique pas pour manipuler, parce que dans le mot manipuler, il y a l'idée de tromper. Et je pense que la plupart des documentaires, de ces docufictions, de ces hybrides, au contraire, cherchent à révéler le vrai. Ils ont dans l'esprit qu'ils vont, grâce à ce mélange, montrer du vrai.
Mais le vrai n'est pas possible, parce que chacun l'interprète vrai ou du réel. Avec sa subjectivité, donc on n'a pas de...
Alors que quand on parle de manipuler, il y a l'idée de tromper. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, mais il y a tromperie, parce que je peux vous dire, j'ai visité des studios de télévision, et on nous a montré qu'on peut très bien manipuler les photos pour faire croire ce que l'on veut. Donc, pour moi, tout ce que vous avez dit, le docufiction, c'est de la manipulation.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait l'objectif de tromperie. Je crois qu'il y a l'objectif au contraire, de se servir on se sert de la grammaire du mensonge pour dire le vrai. Et la manipulation, c'est autre chose. C'est la propagande, c'est le mensonge. Alors, c'est Opération Lune. C'est une opération de manipulation. Mais c'est une manipulation dont l'objectif est de dire le vrai. Donc, il n'y a pas de... C'est pour ça que je trouve que mon entrée par l'objectif me semble important. Parce qu'il casse ce que vous avez l'air, que l'intervention précédente avait l'air de dénoncer avec raison. Il casse cette idée qu'en employant le mot faux, en employant le mot vrai, en employant le mot réel, je pense que j'ai l'idée derrière la tête qu'il est possible de dire le vrai, le réel, etc. Je pense que, bien sûr, c'est pas possible, mais que l'objectif de vérité est essentiel. Encore une fois, il n'y a pas d'histoire sans objectif de vérité.
J'ai pensé à un exemple récent qui l'auteur même dit que ce ne sont pas des documentaires, ce sont les films de Sacha Baron Cohen, Borat et Bruno. Beaucoup de gens considèrent ça des documentaires aussi, mais c'est pas un type de documentaire qui rentrerait, à mon avis, dans aucune des trois catégories. Est-ce qu'il a inventé quelque chose de nouveau ou c'est pas du tout de documentaire à votre avis?
Alors moi, je crois que ça n'a absolument rien de documentaire. Hein. Je crois que... Mais c'est amusant, parce que pour moi, c'est le type même du film farfelu. Bien sûr, il y a des éléments...
Je n'ai pas compris quel film il s'agit, je n'ai pas entendu.
Ah, les films de Borat.
D'accord. Ah
oui. Mais ce qui est amusant dans ce que vous me racontez, c'est que moi, j'ai été la vedette d'un docu-fiction dans le sens que vous voulez... Chez Borat, parce que j'ai été invitée par Channel 4 quand j'habitais en Angleterre, pour faire une émission très sérieuse sur l'identité nationale. Et donc je suis allée avec des savants sur l'identité nationale. Vous êtes anglais ?
Non ?
Vas-y, ah bon, mais vous connaissez peut-être, mais je crois que les Français ne connaissent pas en général. Vous connaissez ? Et donc j'ai passé 4 heures avec d'autres intellectuels pour parler à un monsieur très particulier, habillé avec des bagues, un chapeau, qui parlait un anglais très très bizarre. Et ça a été absolument abominable. Pendant 4 heures, on nous a posé des questions débiles, du genre « Oui, les Américains, pourquoi vous êtes battus du côté des nazis ? Vous, les Allemands, pourquoi vous êtes nuls en musique ? Vous, les Français, pourquoi vous pensez qu'à faire l'amour ?» Enfin, et on s'est dit « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Et en fait, on était piégés par une émission de télévision qui s'appelait « Ali G ». Et c'était, j'avais donc face à moi Ali G, et donc j'étais totalement dans une émission de docu-fiction, puisque nous, les intellectuels, on s'est fait mais rouler dans la farine, persuadés qu'on était devant une émission documentaire. En fait, on était dans une pure fiction, et il y avait Ali G. Alors évidemment, depuis je suis devenue quelqu'un de tout à fait important pour mon fils, parce que j'ai été dans Ali G, mais moi, je peux vous dire, j'ai été absolument maltraitée dans ce mélange de faux et de vrai.
Oui, deux choses.
Je crois que personne ne connaît Ali G, à part vous et moi, peut-être.
Je sais pas. Non, mais je le connaissais aussi. Hein. Ah bon. J'ai pas regardé Bruno, par contre, mais c'était très particulier. En conclusion, vous avez dit que c'était la victoire de la fiction, tout à l'heure. Or, quand on reprend un petit peu chronologiquement ce que vous avez dit, on a eu un passage sur les actualités où c'est, non seulement c'était des images qui étaient fausses et refaites, mais qui en plus servaient une propagande. Donc, qui servaient même un but du faux, et pas un but du vrai. Et à la fin, on est dans des docu-fictions qui essaient au contraire de nous faire vivre la vérité avec des écueils possibles. Est-ce que dans ce cas-là, on n'est quand même pas, au fil du temps, sous une forme de progrès de ce genre d'image ? Puisqu'on est d'abord dans la propagande et à la fin, on essaie d'être plutôt dans le vrai, même si on n'y arrive pas forcément. Donc, dire en conclusion que c'est la victoire de la fiction, c'est un peu surprenant.
Oui, alors, pardon. Donc, à chaque fois qu'on emploie le mot fiction, il faudrait préciser, hein, c'est puisque c'est un mot polysémique qui dit une chose et son contraire, surtout dans mon exposé, puisque moi, j'emploie le mot fiction dans le sens de la forme fictionnelle. C'est-à-dire, c'est le triomphe de l'utilisation d'acteurs, du récit, du scénario, du dialogue et de tout ce qui fait de la grammaire de la fiction. Ça, c'est son triomphe. En revanche, effectivement, et c'est ça ce qui m'amuse dans ce petit travail, c'est qu'on va se servir de cette grammaire de la fiction pour dire le contraire de la fiction, c'est-à-dire le vrai.
Donc c'est triomphe de l'aspect narratif.
Oui, mais le narratif, on peut pas remplacer fiction par narratif, parce qu'il y a du narratif dans le documentaire. Il y a du narratif dans les actualités. Donc non, je crois qu'on ne peut pas, on a du mal à se débarrasser de ce mot fiction, mais je devrais dire la forme fictionnelle. C'est le triomphe de la forme fictionnelle.
Alors,
cette forme fictionnelle qui a été interprétée par beaucoup comme le symbole de l'invention, du mensonge, du faux et de l'imaginaire, eh bien, est acceptée massivement comme le moyen de dire le vrai. C'est ça que je. C'est une forme d'art. Ça, c'est le fameux film dont je vous ai parlé, l'assassinat du duc de Guise d'abord. Et puis, c'est un art qui va permettre un art du faux qui va permettre de dire le vrai.
Et mon autre question, c'est savoir qu'est-ce que ce média ajoutait par rapport à ce qui existait avant. C'est-à-dire qu'on a des actualités sur la Seconde Guerre mondiale qui sont des reconstitutions fausses ou plutôt fausses en général. Qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'a pu apporter les bulletins de l'armée de Napoléon ou la guerre des Gaules de César? Quand il parle de lui-même à la troisième personne, pour raconter quelque chose.
Bien sûr.
Qu'est-ce que ce média apporte de plus, hein, là où il y avait peut-être déjà de l'imaginaire avant ?
D'abord, non, vous avez raison de dire, et ça, tout bon historien devrait commencer son intervention en disant « Rien n'est nouveau dans ce vaste monde ». Effectivement, bien évidemment, le mélange du vrai et du faux... Je ne veux pas dire des choses choquantes, mais depuis sur les églises, depuis la Bible, et les dessins qui ornent les églises sont évidemment des mélanges de vrais et de faux, constamment, et de propagande, d'idéologie, de religion. En tous les cas, l'idée de faire passer des messages que l'on considère comme vrai, parce que je pense que quand même les prêtres sont persuadés de ça, à travers du récit, de l'imaginaire, de l'inventé, c'est aussi vieux que le monde et les mythes, hein, je parlais des mythes, c'est ça. Hein. Donc vous avez raison de dire qu'on n'a rien inventé sur ce vaste monde. Simplement, tout de même, l'histoire des images, depuis que les images existent, hein, même depuis Platon, part tout de même de cette idée que l'image dit le vrai, hein. Et qu'il y a chez nous tous l'idée de l'analogie, du témoignage, de la preuve. Et même si on sait que ce n'est pas vrai, on le pense quand même, hein. Et l'exemple que je donne dans mon livre est bien connu. C'est lorsque les Américains les Anglais, les Américains en particulier, arrivent autour des camps de concentration, ils se disent « on va filmer pour montrer que c'est vrai ». Et à Nuremberg, on va utiliser des films pour montrer que c'est vrai. Or, ce qui est intéressant dans les films de Nuremberg, c'est qu'ils sont faux. Ils disent du faux. Qu'est-ce qu'ils disent, les films de Nuremberg ? Ils disent que Hitler était un affreux personnage qui a massacré des gens. Il ne dit pas qu'Hitler avait un programme d'extermination des Juifs pour des raisons raciales. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette idée très profonde que l'image dit le vrai, elle est ancrée, et c'est pour ça que quelque part, et elle était ancrée dans l'esprit d'Église, hein, la guerre entre les iconodules et les iconoclastes, elle vient de là. Hein, le problème de la représentation de Dieu, de l'islam, etc. C'est quand même cette idée très forte que l'image dit quelque chose de plus, dit quelque chose autrement, etc. Donc on ne discuterait pas de toutes ces images s'il n'y avait pas cette idée ancrée qui fait qu'on croit ça. Même si on sait que ce n'est pas vrai, mais tout de même. Voilà. Donc je crois que c'est l'image, et l'image animée a apporté encore plus cette impression de réalité. Alors l'image numérique, et là on est en cœur de ce débat avec Avatar, hein, c'est intéressant, c'est qu'on dit, et probablement un jour, ces images qui nous semblent tellement vraies nous paraîtront peut-être aussi fausses que maintenant, lorsqu'on voit l'assassinat du duc de Guise ou l'incendie du bazar de la Charité, où on dit mais personne n'a pu croire un instant que c'était vrai. Je crois d'ailleurs que personne ne croyait que c'était vrai. Comme nous ne croyons jamais que c'était vrai. Et que l'idée que lorsque le train est entré, que les gens partaient, c'est faux. Bien évidemment, c'est faux. Et maintenant, ça y est, l'historiographie a fait. Les gens, quand ils ont vu l'image du train, ils ont bien compris que ce n'était pas un vrai train. Bon, voilà. Ils ont vu que c'était une image du train. Mais ils se sont dit, on dirait vraiment un train. Comme nous, on trouve que les images d'Avatar, c'est encore plus vrai que le vrai.
Monsieur. Ça sera. Attendez, il faut s'enregistrer. Non, mais je suis obligée de donner le micro.
Croyez-vous qu'il y a une relation entre ce que vous venez de présenter en tant que fiction et l'orientation politique des gens ? Puisque normalement, ceux qui se trouvent aux extrêmes sont d'habitude tentés à créer des vérités historiques.
Oui. Je crois que tout le monde, enfin tout historien cherche à donner la vérité d'un fait, d'un élément, d'un personnage. C'est son job, c'est son métier. C'est pour ça que lorsque les historiens comme Aidan White disent l'histoire ne fait que de la fiction, à ce moment-là, il n'a plus de raison d'être, hein, puisque je crois que la raison d'être entre la différence. Donc je ne crois pas qu'il faille chercher les extrêmes pour voir le désir de la réalité. La seule différence entre les extrêmes et les non-extrêmes, c'est que l'extrême est prêt à tuer pour tuer ou brutaliser ou je ne sais quoi, en tous les cas, est prêt à utiliser la force parce qu'il est. C'est le degré il est persuadé d'avoir la vérité, alors que peut-être celui qui n'est pas extrême est persuadé d'avoir la vérité, mais il n'est pas prêt à tout pour y parvenir. Donc je pense que l'idée d'être prêt à tout pour faire croire à la réalité ne distingue personne. Je crois que ce sont les moyens, comme souvent, qui font la différence. Mais je crois que chacun est persuadé d'avoir la vérité. Oui.
On est obligé de s'arrêter, malheureusement. Je pensais au film de Stephen Frears, The Queen. On est vraiment complètement bluffé. Vous le mettez dans la catégorie de la fiction, mais à un moment, on se dit, c'est pas possible, ça s'est vraiment passé comme ça.
Oui, alors,
c'est un film extraordinaire.
Donc ça c'est la partie la plus légère de mon intervention, de mon travail. C'est qu'effectivement, qu'est-ce qui distingue le film à costume de ce genre que j'appelle docu-fiction, docu-drama, etc. Ça, c'est ça qui est un peu compliqué, parce que c'est vrai que The Queen se veut probablement comme un docu-fiction. Et moi, je pense que je l'intégrerais plutôt comme un film à costume, dans la mesure où il ne se prétend pas non plus. Il n'y a pas tout cet appareil de présentation qui dit « je vais vous dire la vérité sur la reine, je vais vous dire la vérité sur les relations avec... » Il n'y a pas, encore une fois, tout cet appareillage images documentarisant qu'il y a dans ce que je vous ai montré sur la prise de pouvoir. Voilà, donc c'est un film à,
tout simplement.
C'est un film tout simplement. Et il y a dans tous les films des éléments de réalité. Et vous savez, je dis toujours qu'un jour j'ai interrogé, pour ma thèse et pour mon gros livre sur l'histoire, j'ai interrogé tous les historiens qui avaient participé à la télévision. Et je leur ai demandé, pour vous, quel est le meilleur film historique ? Eh bien, mais massivement, ils m'ont répondu les damnés. C'est un film dans lequel rien n'est vrai. C'est-à-dire que les damnés, la famille n'a pas existé, les décors n'ont pas existé, enfin les décors réparés, ce sont des studios, les dialogues, enfin bon, voilà. À part la situation historique, pour un historien, c'est le faux complet, enfin l'invention totale, faux dans le sens limitation, qui est le plus vrai. Hein. Donc c'est intéressant. Donc tout ça pour dire que c'est un film à costume. Et c'est bien dans ce film à costume-là que, pour les historiens, on est arrivé à une vérité très, très proche de ce qu'est un historien à la montée d'une nazie.
On se souvient aussi de l'impact des rois maudits. Hein.
Et Dieu sait si les rois maudits
disent... C'était fou.
Oui, c'est n'importe quoi.
Merci, madame.
Merci.
Voilà.
Hein, bah oui. Bon.